Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous du Café des Sports de Radio Foot International sur RFI, bien entendu, et comme chaque vendredi pour refermer nos semaines d'actualité, et vous l'avez suivi cette semaine, eh bien des semaines pleines d'actualité. En tout cas, aujourd'hui c'est le 8 mars et en ce jour de international des droits de la femme, un salut particulier et amical aux auditrices de Radio Foot. Il y en a, je le sais, j'en ai déjà rencontré dans les pays où nous sommes allés animer l'émission, et puis j'en lis certaines qui nous laissent des messages sur la page Facebook. Merci mesdames, et en cette année de Coupe du Monde des filles, eh bien, on y reviendra à la gente féminine. Alors, dans ce studio aujourd'hui, ben non, il n'y a pas de femmes, il y a des hommes. Rémi Ngono, bien sûr. Bonjour Rémi.
Bonjour Annie, bonjour à toutes les auditrices, et particulièrement celles qui sont actuellement aussi beaucoup endeuillées et qui n'ont pas pu défiler. Et c'est à celles-là que j'adresse particulièrement mes salutations.
Il y a aussi Yoro Mangara aujourd'hui, très africaine par contre notre table. Bonjour Yoro.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci de venir nous voir à RFI.
Hein ? Merci à vous et puis bonne fête des femmes.
Merci. Patrick Juillard, bonjour.
Bonjour Annie et bonjour à toutes et à tous.
Patrick de Foot Africa 365 et puis le réfé Alejandro Valente. Bonjour Alejandro.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors, dans l'actualité du jour, eh bien, des irréductibles bretons. Et oui, ces joueurs de Rennes hier soir, au lendemain des déroutes des Parisiens et des Madrilènes, eux, les joueurs du Stade Rennais, ont battu avec éclat l'équipe anglaise d'Arsenal, un ogre, face à Ozil, Mkhitaryan, Aubameyang. Les Rennais sont devenus les stars de la soirée. Ces Rennais, ce sont Sarr, Bourigeaud, Grenier et Ben Arfa, artisans d'une victoire qui leur laisse entrevoir un quart de finale de Ligue Europa. Que se passe-t-il à Madrid et à Paris le jour d'après, après les éliminations du Real et du PSG chez les Merengues? Les rumeurs du départ de Solari enflent chaque heure, alors que chez les Parisiens, les questions succèdent aux doutes. Des conséquences, il y en a, il y en aura, mais lesquelles? Nous essaierons de les deviner. Et puis les matchs internationaux se rapprochent et des listes d'équipes nationales pour les prochains matchs fleurissent en Allemagne. C'est la grande lessive, celle de Joachim Löw, qui crée la polémique. En Argentine, c'est le retour de Lionel Messi. Le Messi revient sous le maillot de l'Albi Celeste. Et ça fait sourire Alejandro Valente, bien sûr. Avant de lancer ce Café des Sports, un salut à un auditeur tchadien qui nous écoute à Paris dans son taxi. Il se reconnaîtra. Et aussi à Dakar. Yoro, je voulais saluer Monsieur
Mamadou Matar Tiam.
Voilà, c'est votre grand-père. Un grand monsieur qu'on avait rencontré du côté de Dakar. Et je sais qu'il est fidèle, lui aussi, à l'émission. Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts.
Ça s'est transformé en tir. Quatrième minute et les Gunners plombent le moral des Rennais. Bourigeaud.
Il est capable, allez.
42e minute. Deuxième chance.
Allez,
deuxième chance. Quel boulet de canon. Quel vacarme de Rosenborg porte avec ce coup du sort. Favorable au Stade Rennais qui renverse la situation. 2-1 pour les Rouges et Noirs.
Il a vu le bon ballon.
Il a vu.
Et oui, de belles couleurs au foot français. Rennes n'a pas peur des exploits. Et cette équipe modeste, à l'échelle du football européen et même de la Ligue 1, est en train d'écrire allègrement son histoire européenne. Après être sorti des poules de cette Ligue Europa à force de volonté, après avoir éliminé le Bétis à Séville, les voilà, les Rennais, avec un orteil en quart de finale. Un orteil, hein, parce qu'il y a 75% de chances de se qualifier. Mais maintenant, on reste prudent à Radio Foot. Bref, hier soir, Rennes a donné et montré le meilleur de lui-même pour battre les Gunners d'Arsenal par 3-1. Et Clément Grenier, un des artisans de cette victoire, était au micro de Cédric De Oliveira en fin de match.
On est en train de grandir et de mûrir tous ensemble.
et ce qu'on a fait ce soir, revenir au score et l'emporter 3-1, c'est une grande performance. Il faut relativiser parce que ce qui sera beau, ce sera la qualification et c'est tout.
Alors il faut relativiser, mais quand même, Alejandro Valente, cette année, hein, vous avez des yeux pour les équipes en rouge ou en rouge et noir dans l'Hexagone, Lille et Rennes. Et Rennes ne vous déçoit pas?
Ah, il me déçoit pas du tout. Même après, je me rappelle, on en avait parlé après le match aller contre le Betis Séville qui s'était achevé sur un 3-3. Moi, j'avais dit que malgré cette performance qui n'était pas très bonne en termes de résultats, que Rennes avait joué un vrai match de coupe, qu'il s'était vraiment donné à fond pour essayer de gagner ces matchs, qu'il n'avait pas calculé, qu'il avait vraiment fait le match qu'il fallait, et il prouve match après match qu'ils sont sur la bonne voie, qu'ils ont la bonne attitude, et que cette équipe qui a quand même une base africaine très importante. Il y avait 3 défenseurs africains de diverses nationalités. Il y a Ismail Assar qui est magnifique. Il y a Mbaye Niang qui n'était pas là hier, mais qui sera sans doute jeudi prochain à l'Emirates.
Et aussi Amari Traoré, l'excellent latéral droit malien
également.
Ben justement, Patrick, vous aussi, vous êtes sous le charme de cette équipe et de ce collectif emmené désormais par Julien Stéphan.
Ouais, tout à fait. J'abonde totalement dans le sens du réfé, c'est-à-dire que Rennes, malgré un début de match très difficile, hein, quand même, ils sont menés au bout de 3 minutes sur un but, un joli but d'ailleurs, avec beaucoup de touchés, mais un petit peu de réussite aussi de Iwobi, le neveu de JJ Okocha, qui joue à Arsenal. Ils sont réussis à se ressaisir, à réagir ensemble. C'est un collectif, c'est de l'intensité, c'est du talent. C'est aussi penser, parce que on regarde un peu les actions, on voit vraiment un travail des circuits préférentiels. C'est très, c'est
le dernier but,
c'est à la fois
spontané
et très réfléchi comme équipe. J'adore ce qu'ils font, et c'est d'autant plus une divine surprise que Rennes, en règle générale, c'était souvent des recrues intéressantes, un effectif sur le papier de qualité et presque rien, pas de collectif sur le terrain. Là, ils ont les deux, c'est-à-dire qu'ils ont intelligemment géré certains départs, notamment celui de Kazri, qui était quand même une grosse perte. Hein. Et pourtant, ils sont presque meilleurs grâce au travail de cet entraîneur qui arrive. Alors, Lamouchi n'avait pas fait du mauvais travail avant, il faut pas penser qu'il est parti d'une feuille blanche, mais Julien Stéphan, il gère beaucoup mieux les temps forts et les temps faibles, il sait beaucoup mieux réagir par son coaching, et il sait mieux dire les bons mots à son équipe quand elle est menée. Lamouchi, il avait tendance à un peu perdre le fil quand son équipe avait du mal. Stéphan, il tient mieux la barre.
Yoro,
moi j'ai plutôt envie de mettre en lumière le travail de Letang, en fait. Quand il est arrivé, son premier discours, c'était « Il faut qu'on arrête d'être des losers. »
Le directeur
sportif,
exactement.
Qui vient du PSG. À un moment, il a été au PSG, il a été à Reims aussi.
Il a été à Reims. Mm. Quand il est arrivé, ce qu'il avait dit, c'est ça. Écoutez, il faudrait qu'on arrête avec cette histoire de Rennes ne gagne jamais. Il a d'abord commencé par aller chercher Sabri Lamouchi. D'habitude, on est souvent sceptique ici en Ligue 1 d'aller chercher des entraîneurs qui n'ont pas fait leurs preuves en Ligue 1. Il allait le chercher dans le golf. Il a certes entraîné en Afrique, en Côte d'Ivoire. Il allait le chercher. Ça avait bien démarré avant qu'il y ait un petit peu du grain dans le sable. Après,
ouais, surtout les relations avec les joueurs. En fait,
avec les joueurs. Mmh. Après, il a fait quoi? Il a pris un entraîneur qu'on ne connaissait pas. Bien vrai qu'on avait parlé de son nom, a été un petit peu évoqué à Monaco pour être l'adjoint de Thierry Henry. C'est un entraîneur nouveau qui a une nouvelle vision de jeu avec des joueurs frais. Aller chercher Mbaye Niang, c'est une bonne pioche. Aller chercher aujourd'hui un joueur qui ne jouait pas au PSG, Ben Arfa, c'est sur des matchs.
Ils ont eu plus
comme
de chance avec Ben Arfa qu'ils n'en avaient eu avec Gourcuff, hein, parce que
sur des grands matchs comme hier, il répond présent. C'est pas quelqu'un qui sera jugé sur toute une année, mais sur de grands matchs comme hier, comme face au Betis Séville, il va répondre présent. Il a fait un recrutement malin.
Rémi, elle vous intéresse, elle vous plaît cette équipe de Rennes?
Beaucoup plus hier, c'est vrai quand même qu'ils ont aussi été en supériorité numérique, mais quand même.
Oui, c'est vrai que
pour
Arsenal
fois
a terminé à 10, mais bon, c'était
oui,
leur faute.
Mais c'est de leur faute. Mais quand on voit quand même ce qui se passe sur le terrain, on voit cette fois-ci au moins qu'ils ont réussi quand même plus de passes qu'Arsenal, 348, et qu'ils ont une possession supérieure, ce qui n'était pas le cas. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais critiqué au premier match contre Betis, quand ils avaient fait le 3-3, ils avaient 27% de possession. Mais là, ils ont quand même eu 54% de possession face à Arsenal, c'est déjà un exploit que de le faire. Donc, j'ai dit que c'était beaucoup plus malin également, parce que quand on me dit souvent que non, le problème du football, c'est que on ne peut pas rivaliser avec les équipes qui ont un grand budget, et en France, il y a des petits budgets, j'ai dit justement, regardez donc finalement Rennes. Rennes, c'est rien du tout au niveau du budget. Arsenal, c'est enfin, 651 millions, oui. L'effectif qui était là, 651 millions.
Mais Rémi, si vous voulez, ils pourraient Rennes, parce qu'ils sont adossés à un groupe... Le groupe Pinot très puissant.
Non, je regarde ce que vaut le joueur. Ce n'est pas, c'est à peu près comme si vous allez dire que je suis assis derrière mon père qui a son argent et ne me donne rien. Pour l'instant, j'ai dit l'effectif qui est à Rennes est un effectif qui a été recruté à vil prix et que l'effectif d'Arsenal c'était 651 millions. J'ai dit bien c'est ça la différence. Mais quand on arrive sur le terrain, on se rend compte que bien au contraire, c'est Rennes qui menait plutôt devant l'ogre anglais qui malheureusement a encore montré toutes ses failles sur le plan défensif, parce que quand vous avez des joueurs comme Mustafi, c'est-à-dire que quand Socrates est déjà parti et vous avez encore Mustafi qui ne sert à rien, quand vous avez Montréal qui est totalement à côté, vous vous dites quand même que au milieu du terrain vous pouvez avoir quelqu'un sur qui vous allez compter. Eh bien Lucas Torreira, c'est lui aujourd'hui qui essaie de colmater les brèches et il n'était pas présent. Aussi il est mort. Et quand vous avez devant aussi Aubameyang qui est totalement déjà, je sais pas là où il se trouve actuellement, ou dans une damjane, il faut bien qu'on aille au Gabon aller le retirer de là où il a été bloqué par les marabouts. Ça ne va plus.
Ben justement, arrêtons-nous alors sur le cas Aubameyang avant de passer en revue l'effectif Clément de Ben Arfa et autres du côté de Rennes. Apparemment, Aubameyang, il est dans une mauvaise passe, on peut dire. Il a marqué un but, on regardait Alejandro Valente ce matin, un but sur les 8 derniers matchs, même s'il est le 3e buteur de la Première Ligue actuellement, juste derrière Salah et Agüero. Et puis, il y a des rumeurs aussi qu'il quitterait déjà la sélection. Enfin, ça serait, il arrêterait sa carrière internationale. Bon, on comprend aussi ses déceptions du côté du Gabon. Il y a eu pas mal de déconvenues.
Le problème, c'est Aubameyang et le Gabon, c'est l'œuf et la poule. C'est-à-dire, on se demande si la sélection a des difficultés donc Aubameyang ne vient plus, ou si c'est parce que Aubameyang ne vient plus que la sélection a des difficultés.
Mais il y a aussi beaucoup de difficultés autour de la sélection.
Oui, mais ça, ils le savaient déjà et elles datent pas d'hier. Mm-hmm. Donc moi, je trouve ça assez moyen, son comportement avec le Gabon, même si je suis pas un défenseur des instances et du pouvoir au Gabon. Mais à part ça, il est comme à l'image de cette équipe et à l'image de cet entraîneur, c'est très cyclique. C'est-à-dire Arsenal comme Unai Emery, c'est un club et un entraîneur qui sont très cycliques, qui peuvent être irrésistibles sur 10 matchs et ensuite totalement quelconques sur les 10 suivants.
On peut peut-être ajouter et préciser que Lacazette ne jouait pas car il était suspendu. C'était quand même un gros handicap pour
Arsenal. Iwobi, par contre, a été pas mal, notamment sur la première demi-heure. Après, il s'est effacé comme toute l'équipe.
Rémi, Pierre-Emerick Aubameyang, il est dans une mauvaise passe, il est dans un mauvais moment parce que c'est quand même un joueur assez étincelant souvent et qui en plus est un bon buteur.
Et même le pénalty, il rate. Vous vous rendez compte quand même en première ligue.
Donc, c'est un manque de confiance.
C'est un manque de confiance. Je ne
envers
sais
son
pas
entraîneur.
Je crois que c'est envers son entraîneur. Parce que Aubameyang, justement, quand il venait à Arsenal, c'est parce qu'il y avait
Wenger.
Donc c'était presque un père qu'il prenait sous les selles. Mais malheureusement, subitement, Wenger s'en va. Ça fait qu'aujourd'hui, lorsque vous essayez de voir les tâtonnements de Unai Emery, qui n'est pas aussi proche des joueurs qu'on peut le croire, donc on se voit que même Aubameyang, aujourd'hui, n'a même plus confiance quand il se retrouve, même dans les 6 mètres, quand il rate, il regarde directement vers le banc. Qu'est-ce que le coach est en train de faire, surtout qu'il est beaucoup trop agité. Et d'ailleurs, c'est la même chose. Quand vous voyez Ben Arfa s'éclater aujourd'hui, c'est là où vous vous rendez aussi compte que Unai Emery, quand même, a eu à bousiller.
Il regarde aussi vers le banc.
Voilà, c'est ça.
Je pense qu'aussi, c'est le retour en forme de Lacazette à Arsenal qui a un petit peu bridé le joueur. Parce que quand Lacazette est là...
Mais ils réclament d'être ensemble sur le terrain. Mais
oui, s'ils sont ensemble, il est sur un côté, il n'est pas dans l'axe. Le fait d'être sur un côté, donc il est appelé à servir Lacazette et non à se servir lui-même, ça peut le perdre. Et en plus, c'est un joueur qui adore prendre l'espace. Et dans le jeu que Arsenal déploie, c'est jouer sur les côtés
et avec des centres, et je pense pas que ce soit la meilleure formule pour qu'il puisse exploiter tout son talent. Il veut, souvent il fait des courses, il fait des appels, mais les ballons ils viennent pas parce qu'il passe sur les côtés, c'est sur Chaka, etc., pour que les centres viennent. Mm-hmm. Et à ce jeu-là, Lacazette est beaucoup plus performant parce qu'il sait jouer droit à la défense, ce que Aubameyang ne peut pas faire.
Ouais. Alors, Aubameyang, pas terrible. Par contre, du côté des Rennais, eh bien, il y a eu les buteurs hier soir, Ismaïla Sarr, le Sénégalais.
Génération et... foot, merci.
Bah oui. On les remercie souvent, les centres de formation, et à raison, les centres de formation du Sénégal. Il y a aussi Bourigeaud qui marque un but. Et puis, on a les artistes quand même. On a Clément Grenier, hein, qui est arrivé dans cette équipe au milieu de terrain et qui fait tellement de bien. Et Atem Ben Arfa. Atem Ben Arfa, de plus en plus à l'aise, constate son président. Justement, vous en parliez, Olivier Létang.
Atem, tout le monde connaît ses qualités. De toute façon, c'est un joueur qui est différent, qui est en capacité de faire des différences individuelles. Maintenant, ce qui est intéressant chez Atem aujourd'hui, c'est Atem dans le projet collectif du Stade Rennais. Je pense qu'il s'épanouit, il est utile à l'équipe et pour les résultats. Et on ne peut pas sortir un joueur, c'est toujours difficile de sortir un joueur d'un collectif. On tire la force d'un projet que l'on a en commun.
Olivier Létang, donc le président du club, au micro de Cédric de Oliveira. Effectivement, Alejandro, hein, c'est, on parlait évidemment beaucoup durant la semaine des âmes des équipes qui parfois perdent le nord et perdent leur âme sur un moment ou n'en ont jamais trouvé. Là, c'est une équipe qui commence à montrer un collectif uni.
Absolument, et pourtant les tensions ne manquent pas. On aurait pu avoir une affaire Ben Arfa quelques jours avant ce choc, puisque Ben Arfa avait manqué une convocation pour un match de coupe.
Une mise au vert.
Voilà, une mise au vert.
Une mise au vert, oui.
Donc, je pense que le staff rennais a su gérer ce cas de manière très adroite. On peut également souligner le fait que ce qui est assez rare, que la Ligue nationale du football a protégé un petit peu l'équipe rennaise en lui épargnant de jouer les week-ends précédant ces matchs. Et on a vu quand même qu'il y avait un état de fraîcheur plus important que chez Arsenal, qui venait de disputer le derby face à Tottenham et qui avait sans doute laissé des forces.
La force de Rennes, c'est effectivement avoir cimenté une équipe.
La force peut-être de Rennes, c'est surtout...
Il y a peut-être moins aussi l'influence quand il y a trop d'intérêt autour de l'équipe et trop de commentaires.
Oui, c'est-à-dire que la force de Rennes, c'est qu'à force de décevoir, plus personne n'attendait rien de cette équipe.
Et donc peut-être là, pas cette saison.
En début de saison, tout le monde disait bon, Rennes, c'est comme à chaque fois.
Ils ont eu du mal, c'est vrai.
On dit qu'ils ont fait des bonnes recrues, qu'ils ont un bon effectif et ils vont se planter. Et cette année, non, ils se plantent pas. Ça dure, le soufflet ne retombe pas. Donc c'est ça qui est intéressant. Et ça sert l'équipe. Ils sont dans la position d'un outsider. C'est-à-dire, on attendait rien d'eux et là, finalement, il s'avère qu'ils sont à la hauteur. C'est très intéressant. C'est une force nouvelle pour eux et surtout ils sont contents de jouer cette Europa League. On reprochait souvent aux clubs français d'envoyer des équipes B, on l'a dit pour Marseille à juste titre hein, cette saison.
Année.
Rennes, ils sont contents d'être là.
Justement,
ça fait plaisir.
Justement, Yoro, Patrick parle de l'OM. Est-ce que vous seriez tenté de faire un parallèle avec l'OM l'année dernière qui avait fait ce parcours absolument étonnant en Ligue Europa?
Je pense que Rennes manque de joueurs expérimentés comme l'OM il y a un an, parce que dans cette équipe de l'OM, il y avait quand même Rami, qui a déjà gagné cette coupe et qui connaît très bien le parcours en Europa League. Il y avait Luis Gustavo, qui a gagné énormément dans d'autres clubs. Ces joueurs d'expérience, Rennes ne les a pas. Mais moi, ce qui me fait plaisir en voyant cette équipe gagner, c'est qu'enfin, ils vont se dire, nous pouvons. On peut créer la surprise, on peut gagner, on peut fédérer le public et le club. Et enfin, peut-être Pino va essayer de remettre des billes pour que Rennes redevienne ce qu'il était au début des années 2000. Il avait commencé en prenant Fabinho, les Lucas, etc. avec beaucoup d'argent à l'époque. C'était plus de 16 millions d'euros, c'était beaucoup d'argent en 2000.
Mais Luis Fabiano,
oui, bien sûr. Luis Fabiano, Lucas, c'est le Renault Lucas, etc. Il avait commencé à mettre beaucoup de billes, mais c'était pas rentable. Il y avait même César qui était au PSG, etc. Après, il a reculé. Mais là, comme ils ont commencé à regagner, peut-être que Pino va mettre de l'argent et que Rennes va devenir ce grand club breton qu'on attend depuis des années.
Rémi ?
Ce n'est pas aujourd'hui que Rennes gagne, contrairement à ce que vous pouvez dire. L'année dernière, il faut dire qu'ils ont fait une bonne saison. Rennes termine quand même, lorsqu'on voit les 10 dernières saisons, c'était 9e et 7e meilleure position.
Il peut faire mieux.
Or, 7e, c'était meilleure position. L'année dernière, ils finissent 5e. Et l'année dernière, on voit déjà des joueurs qui sont importants, tels que Bourigeaud, qui d'ailleurs était le joueur qui a beaucoup plus tiré les coups de pied arrêtés en Ligue 1 la saison dernière. Et maintenant, ils ont ajouté un plus. C'est à peu près comme Rennes. Rennes avait réussi aussi ce coup-là en allant, Nice avait réussi ce coup-là en allant chercher des joueurs
en recyclant un peu des bons joueurs.
Ben Arfa et tout. Aujourd'hui, quand on essaie de regarder l'effectif des Rennes, on se rend quand même compte que ce soit ça, que ce soit même Traoré qui n'a pas joué, que ce soit Niang, que ce soit Bourigeaud, que ce soit nous, tous aujourd'hui peuvent faire quelque chose, tous sont importants et que ça a plutôt un peu augmenté. Mais sauf que moi je trouve que au niveau du championnat, ce n'est pas exactement ça.
Il y a une petite faiblesse, je pense, au poste de gardien de but. Koubek,
Diallo,
il peut faire des bons matchs, mais il fait parfois des grosses erreurs. Hier, sur le but, il n'est pas irréprochable. Je dis pas qu'il pouvait à tout prix l'arrêter, mais il n'est pas irréprochable. Et puis, il y a donc le Sénégalais Diallo dont parle Yoro, qui lui qui a été pas mal blessé.
Mais si Rennes passe.
Mais ils ont pas vraiment un titulaire indiscutable.
Si Rennes passe, c'est Koubek. Les gens qui avaient obtenu les meilleures notes, c'était Koubek, Ben Arfa.
Il est quand même irrégulier, Koubek. Voilà.
En tout cas, Alejandro, c'est bon pour l'indice UEFA.
C'est bon pour l'indice UEFA, car on sait que la France est plutôt dans une bonne dynamique. Elle commence à marquer un petit peu à la culotte l'Allemagne. Et on peut regretter d'autant plus l'élimination du PSG qui vient plomber un
transition.
Petit peu cette belle dynamique. Mais bon, Rennes quand même est une belle aventure et je pense qu'on peut souligner aussi les comportements de ses supporters qui est vraiment magnifique. On les avait vus très nombreux à Séville. Ils seront sûrement très nombreux à Londres et vraiment il y a une ambiance magnifique à ce stade.
Il y avait une demande de 90 000 places pour un stade qui contient 22 000 personnes, donc c'était compliqué. Ils se rattraperont peut-être à l'Emirates du côté de Londres la semaine prochaine. En tout cas, eh bien, grâce à ce résultat, la semaine prochaine, chers auditeurs, vous aurez droit en direct à la retransmission du match sur RFI Arsenal-Rennes qui sera commenté par Cédric De Oliveira qui vient de faire le voyage du côté de la Bretagne et Christophe Jousset. Et puis à noter aussi que Arsenal et Manchester United se retrouvent ce week-end en championnat, en Premier League. Ça sera dimanche et ils se retrouveront sur la pelouse des Gunners. Ça va saigner.
Ils pourront parler de la France.
Destinés, on était tous les deux destinés.
Champions League. United heading through to the quarterfinals. Marcus Rashford, the coolest man in the place.
Le petit clin d'œil de Laurent Salerno grâce à Guy Marchand qui nous parlait donc de destinée. Et oui, nous allons parler des jours d'après à Madrid et à Paris. On est encore sous le choc dans le monde du football, n'est-ce pas Rémi ? Je vous décris Rémi. Rémi est habillé en blanc aujourd'hui, mais il a une veste noire. Alors on se demande s'il a le côté plutôt blanc ou plutôt noir dans son cœur. Le Real et le PSG sortis au niveau des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Cette compétition qui, pour des raisons diverses, mais chaque année fait tourner l'équipe, surtout à l'époque du printemps. Alors le jour d'après à Madrid, d'abord Rémi, vous l'avez vécu comment vous, cet échec ?
Je crois que j'avais déjà prévenu.
Des doutes, oui,
voilà,
je sais bien.
Je savais que ça ne pouvait pas passer.
On savait un peu tous, d'ailleurs.
Voilà, parce que ce Real est déjà fatigué. Et puis, Solari n'a pas la confiance des joueurs. Et au-delà de ça, quand une équipe a autant de doutes que les cadres ne peuvent pas mettre un pied devant, ça ne peut pas aller. L'eau s'est déjà cassée.
On le voyait venir, n'est-ce pas ?
On le voyait venir. Mais vous savez, si vous regardez qu'une équipe n'est pas bien derrière, n'est pas bien devant, vous ne pouvez rien espérer. Vous vous rendez quand même compte que...
Non mais on pouvait croire, Rémi, c'est ce qu'on osait croire, que la Ligue des Champions, la musique réveillait tout d'un coup cette équipe du Real.
Mais ce n'était pas possible dans la mesure où moi je vous dis, la Ligue des Champions, mais n'oubliez pas que le CSKA Moscou avait battu le Real.
Non, mais le match
et pourtant,
aller,
pendant ce match-là, le Real avait eu 26 tirs. Mais contre le Levante, j'ai regardé par exemple comme ça, le Real avait tiré 36 fois sans marquer. Donc quand vous avez une équipe de cette envergure, vous vous dites comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir se qualifier en Ligue des Champions et pour aller au-delà. Donc moi j'avais déjà dit c'était totalement impossible. Lorsqu'on me dit que le meilleur buteur du Real devrait être Karim Benzema, j'ai dit il n'a jamais été un buteur. Lorsque vous savez que celui qui doit remplacer Cristiano Ronaldo a signé le CDI, le contrat à durée indéterminée à l'infirmerie, Gareth Bale. Lorsque vous savez par exemple qu'aujourd'hui Asensio est en train de prendre l'ascenseur vers le bas de l'étage, bah, vous dites que mais ça ne peut pas aller comme ça. Donc.
Bon, voilà, c'était le laïus de Rémi sur le Real et tous nos auditeurs l'attendaient. Mais aujourd'hui, Alejandro, il se passe des choses à Madrid. Il y a des rumeurs, il y a des décisions peut-être très rapides qui seraient prises. Par exemple, Santiago Solari, qui apparemment n'a plus beaucoup de pouvoir sur ses hommes. Alors, c'est peut-être pas entièrement de sa faute, mais il dirigerait son dernier match à Valladolid ce week-end.
C'est un peu la tendance parce que les dirigeants du Real Madrid n'ont plus confiance non plus en quelqu'un qui visiblement a perdu la main. On a vu ce matin à l'entraînement, à l'absence de Solari, Sergio Ramos prendre la parole devant tous les joueurs pour leur dire qu'il fallait continuer à se battre ou partir. Donc ça montre qu'il a fallu se substituer un petit peu à l'entraîneur pour essayer de remobiliser et de recadrer cette équipe. Ramos leur a dit qu'il fallait qu'ils se battent pour la deuxième place du championnat et qu'ils essayent de bien finir la saison. Et l'inquiétude des dirigeants, c'est qu'ils puissent éventuellement décrocher complètement et même ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions.
Oui.
Donc ils cherchent une solution rapide et ça complique un peu la recherche parce que bon, il est question des Zidane, de Mourinho, etc. Est-ce qu'un de ces entraîneurs rêvés par Florentino Pérez pourrait prendre à mal l'équipe dès la semaine prochaine, toute la question.
Et pour donner un nouvel élan, c'est la grande question.
Moi, ça me rappelle un peu la situation du Real lors de la saison 2003-2004. Ils avaient été sortis en quart de finale de la Ligue des Champions par l'AS Monaco, un club français, enfin un club jeune aussi, un peu comme l'Ajax d'aujourd'hui, si vous voulez. Et à la suite de ça, ils avaient complètement dévissé. Ils avaient perdu, je crois, les 5 derniers matchs cette année-là. Ils avaient fini hors du podium. Ils avaient fini 4e. Aujourd'hui, ils sont pas à l'abri d'une mésaventure pareille parce que Retafe derrière marche très fort et ils ont vraiment Retafe a vraiment envie de se payer le Real.
Et puis l'Atlético qui est deuxième mais bien accroché.
C'est comme si en Ligue 1 vous aviez Créteil ou le Red Star qui talonnait le PSG, ils seraient très motivés et là c'est pareil et c'est inquiétant. Alors pour le choix des entraîneurs, je pense que je suis pas certain qu'un entraîneur type Mourinho ou Zidane débarquerait la semaine prochaine serait d'accord. Après Mourinho, si on s'en tient à ce cas précis, il aurait un grand avantage, c'est qu'il pourrait servir de bouclier à Florentino Pérez. Il prendrait toute la pression pour lui, il attirerait toute la lumière des médias et la direction du Real pourrait manœuvrer calmement à l'abri des médias pour préparer les saisons prochaines.
Rémi, Mourinho, ça vous paraît une bonne idée? Quand on se souvient de son passage qui avait quand même pas été une grande réussite, à un moment il y avait Cristiano Ronaldo.
Ah non!
Quoi non?
Non. Ça a été une grande réussite.
Ah bon?
Le passage de Mourinho.
Ça dépend quelle année.
Attendez.
Rémi, un titre de champion et une Copa del Rey.
Je voulais donc dire ceci.
Mais en Ligue des Champions,
quand Mourinho arrive, il faut savoir que le Real Madrid, dans les 20 dernières années, c'est 22 entraîneurs, dont les Capello, tout le monde a été limogé là-bas. Les Jupenkes, tout le monde a acheté. Et il faut savoir que, par exemple, Lopetegui, qu'il est parti chercher là, c'est 120 jours.
Parlez-moi de Mourinho.
Mourinho, quand il est arrivé au Real, et pourquoi je dis que ça a été un succès? Quand il arrive au Real, le Real était 13e à l'indice UEFA. Le Real n'avait plus jamais été qualifié en quart de finale. Donc, en 8e de finale, le Real avait échoué.
Ils étaient comme le PSG aujourd'hui à l'époque.
5 fois d'affilée. Quand Mourinho arrive, c'est là où le Real recommence à aller en demi-finale. Donc, il faut savoir que, avec Mourinho, le Real devient premier à l'indice UEFA. Avec Mourinho, le Real va devenir quand même champion et Mourinho détient
l'ombre de Barcelone.
Mourinho va détient jusqu'à présent le plus grand record offensif du Real avec 120 buts inscrits.
Oui, mais Rémi.
Lors de... Donc, vous n'allez pas me dire que quelqu'un qui a gagné la Liga devant Pep
Rémi,
Guardiola.
C'est pas ça. Et la question, que la question Rémi.
Une Liga sur trois.
Les autres ont gagné combien?
Rémi, la question qu'on peut se poser, je vais la poser à Yoro, c'est quand on revient en général, c'est un peu ça le problème. Alors, peut-être qu'il a des résultats et des statistiques selon Rémi extraordinaires.
C'est comme renouer avec son ex, c'est souvent très compliqué à c'est souvent très compliqué. On sait que les retours, ça se passe souvent pas bien. On l'a vu aujourd'hui.
Et pas que dans le football.
Et puis, bon, le problème de Mourinho, il y a des têtes de gondole qui ne supportaient pas Mourinho dans ce vestiaire. Et ils sont encore là.
Sergio Ramos.
Oui, exactement. Ils sont encore là. S'il vient aujourd'hui, il peut aider à stabiliser, à terminer la saison. Mais construire avec Mourinho sur 2, 3 saisons, voire 4, c'est pas possible. Parce qu'à chaque fois, la dernière saison,
On a déjà construit comme ça avec quel entraîneur? Cite-moi! Quel entraîneur?
Zidane,
il est parti, oui, il a dit qu'il était
visé.
Et d'ailleurs, il s'en va après avoir remporté sur le fil la Ligue des Champions parce qu'il perd la Liga. Et c'est pour ça qu'il dit, je ne peux plus continuer à gagner.
Il avait senti que l'équipe s'est soufflée, oui.
Voilà, c'est comme ça. Donc les équipes s'essoufflent comme les hommes s'essoufflent. Donc il ne faut pas seulement dire que c'est le cas Mourinho. Regarde à gauche, à droite. En dehors d'Arsène Wenger qui est resté là et qui d'ailleurs a fini par moisir parce qu'il y a un proverbe africain qui dit que à force de durer sur le marché, le poisson finit par pourrir.
Non mais
donc,
Rémi,
tous les entraîneurs sont renouvelés.
Regardez comment est parti Mourinho de Manchester United et c'est Mourinho là que vous voulez.
Il nous fait une octave là. C'est du Rémi. Il fait Rémi face au Lacido. Nous placer au moins aussi une petite brèche, allez-y.
Juste quelques motifs d'espoir quand même pour le Real. Il faut savoir que le Real n'a pas dépensé lors du dernier mercato.
Exactement.
A dépensé très peu à l'échelle de ses finances, donc ils ont de la réserve.
C'est pour ça qu'ils en sont là.
Ils ont aussi des jeunes de qualité, parce que des joueurs comme Isco, Asensio, Ceballos, tout ça, on peut faire Reguilón, tous ces joueurs-là qui sont des jeunes espagnols, on peut faire quelque chose avec ces joueurs. L'effectif n'est pas un champ de ruines, donc le Real, s'ils gèrent bien l'intersaison et qu'ils achètent une ou deux stars, je pense que ça peut redevenir une très grosse équipe.
Euro,
le chantier est vaste, mais c'est possible. Parce que comme disait...
C'est juste le questionnement, effectivement, même d'un retour. On se questionne sur le retour de Mourinho, mais même un retour de Zidane, ça serait peut-être pas très bien. On peut se demander.
Ça peut ne pas marcher comme ce fut le cas il y a 2-3 ans, en remportant 3 Ligues des Champions, parce qu'il sait qu'il ne sera plus dans une continuité, mais dans une reconstruction.
Ouais, ça va prendre
Ça peut lui plaire, mais ça dépendra aussi de l'enveloppe pour le recrutement. Qu'est-ce qu'on va lui proposer? Parce qu'il ne va pas venir pour prendre gaz.
Le Real, ils ont une enveloppe.
Justement, il faut se rendre compte que pourquoi le Real n'a pas recruté des stars l'été dernier lorsque Cristiano est parti? Parce que l'argent du Real, Florentino Pérez veut l'investir dans les renouvellements du stade. Et donc, il a changé des politiques de recrutement. Il ne prend plus depuis quelques temps des grandes stars, mais il prend plutôt des jeunes joueurs avec un potentiel plus ou moins évident. Et donc, avec cette philosophie, je vois mal Mourinho pouvoir trouver son bonheur. Parce que Mourinho est un entraîneur extrêmement dépensier et ça ne va pas vraiment avec la nouvelle
Mourinho
politique.
Mourinho aime les joueurs expérimentés. Là, le Real est plutôt en cours de rajeunissement, oui. C'est vrai.
Alors voilà pour ce qui est du Real, éjecté cette semaine de la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. On a l'impression d'un silence un peu assourdissant ces jours-ci. Et même les plus jeunes, comme Kylian Mbappé, le jeune attaquant qu'on a vu en état de choc au coup de sifflet final, il ne tweete plus depuis avant-hier, pas un message. Alors, Neymar, lui, d'abord, il avait tweeté toute sa rage contre la VAR. Et là, il se montre, il est parti à Doha. Il paraît que c'était déjà prévu depuis hier soir pour un... contrôle de sa blessure du côté du centre de formation et de son super hôpital. Certains se solidarisent aussi. Écoutons Leonardo Jardim évoquer l'éviction du Paris Saint-Germain dans cette compétition.
Je pense que ce n'est pas bon pour le football français, mais Paris n'est pas se qualifié, n'est pas bon pour notre côte en Europe et aussi pour notre image. Paris, c'est une équipe qui est au niveau des meilleures équipes du monde. peut-être si je joue le championnat anglais, si je joue le championnat espagnol, et pour gagner le championnat aussi.
Et oui, le Paris Saint-Germain n'est plus là. Yoro, ce Paris Saint-Germain, qu'est-ce qui peut se passer maintenant selon vous? Parce que là, c'est le silence. Alors, on joue au cours du week-end, bien sûr, mais le prochain grand rendez-vous sur cette pelouse peut-être maudite du Parc des Princes, ça sera face à l'OM dans 10 jours.
Alors, je donne ma langue au chat, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans ce club. Déjà, se faire éliminer de la sorte. Après, est-ce qu'ils pourront garder toutes ces stars avec le fair play financier? Qui va vouloir venir au PSG sur le père Neymar? Est-ce que le projet sera le même? Est-ce qu'à Doha, on commence pas à se dire, bah écoutez, ça sert à rien de mettre autant d'argent? On ne sait pas. Même Tourelle l'a dit, je vais éteindre mon téléphone, je vais rester 48 heures sans...
Ouais, c'est le mot d'ordre apparemment pour tout le monde.
Oui, parce que actuellement, qu'est-ce qui va se passer au Paris Saint-Germain? Je pense que cette élimination fera beaucoup plus de mal que ce qui s'est passé il y a 2 ans face au Barça. Face au Barça, ils ont pu derrière prendre Mbappé, prendre Neymar. Mais
rebondir,
aujourd'hui,
donc,
avec ce qui se passe au Real de Madrid et dans d'autres clubs, est-ce que ce ne sera pas le chemin inverse? Est-ce qu'ils ne vont pas perdre ces joueurs-là? Et s'ils perdent ces joueurs, ils vont devoir acheter des joueurs de niveau 2, Dybala, etc. Et je pense que pour gagner la Ligue des Champions avec ces joueurs-là, ça va être beaucoup plus difficile.
Patrick,
il y a des fondamentaux, c'est-à-dire que le PSG sur ce match, il paye un non-match total dans l'attitude, dans l'agressivité. Vous disiez, Alejandro, que Rennes avait fait un vrai match de Coupe d'Europe. Là, le PSG a fait un match de corpo ou de district. Il n'a pas fait, c'est même pas un match professionnel qu'il a fait. Donc l'attitude, déjà, être uni autour d'un objectif, c'est pas juste faire les beaux avec un maillot de Jordan écrit Dream Bigger.
Sans les couleurs du PSG.
Il faut pas être dans le rêve, il faut être dans la réalité. Et le PSG, avec le Qatar, ils sont plus dans le rêve que dans la réalité. Il faudrait revenir sur le sol. Et ensuite, il faut combler les manques de l'effectif. Ça fait longtemps qu'on dit il faut des milieux défensifs, des tauliers, il y en a pas. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il y a des lacunes sur les côtés. On l'a vu dès le début du match avec Kerrer. Et là, on peut mettre un petit tacle à Tuchel parce que par ailleurs, il fait des bonnes choses, mais il a quand même 2 latéraux droits de profession et de niveau international avec Meunier et Dani Alves, et il se retrouve à faire jouer Kerrer à ce poste qui a presque pas d'expérience en Ligue des Champions, donc c'est une erreur.
Sauf que
donc il y en a d'autres, et il faut auditer les choses, et puis moi c'est pas les hommes le problème, pour moi c'est l'attitude, c'est la culture club, et
ça s'achète pas.
Et je pense qu'il faudrait aussi que le PSG se reconnecte avec le passé du club. C'est pas une page blanche, le PSG c'est un club qui a une histoire. Et depuis cet éclat de Zlatan où il disait avant moi il y avait rien et que le Qatar avait laissé dire parce que ça les arrangeait bien, il faudrait penser aussi que le PSG c'est Paris Saint-Germain, c'est des couleurs, c'est tout ça, et des gens comme Rai, des gens comme Leonardo, ils ont une légitimité dans ce club, voilà.
Exactement.
Il faut leur donner du pouvoir.
Dans ce système hybride, par contre, je pense que le mieux, c'est d'avoir Kerrer à droite, parce que souvent, ils sont à 3 centraux, et Kerrer est meilleur défenseur que Meunier. Par contre, par rapport à l'histoire, il a raison. Aujourd'hui, je vois le président, je lui dis, vous avez le salut de Oumar Gueissen, il va me dire c'est qui, et pourtant, c'était le capitaine du PSG qui a remporté le titre de champion.
Rémi, selon vous, qu'est-ce qui peut se passer au PSG?
Il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Quand les gens me disent tout de suite là que...
Neymar est parti renégocier à Doha.
C'est un problème d'effectif, oui, on ne sait pas, machin, tu es tout, ils n'ont pas de l'expérience. Je vous dis quand même, lorsque vous avez... Buffon vient de prolonger, il va jouer jusqu'à 43 ans.
Buffon, bon, il est bouilli,
ne vous en faites pas.
Rémi.
Allez, je t'ai dit, les gens qui m'ont
invité... C'était avant le match.
Thiago.
Rémi, qu'est-ce qui peut se passer?
Thiago Silva va aussi prolonger jusqu'à 45 ans.
Ils
vont recruter Pepe, pour qu'ils viennent aussi jouer jusqu'à 50 ans.
Pepe est en quart de finale, vous avez remarqué.
Ah oui, mais justement, on est en train, ils veulent le recruter pour qu'il vienne jouer aussi jusqu'à 45 ans, voire 50. Donc, ils vont encore chercher.
Rémi, plus sérieusement.
Plus sérieusement, qu'est-ce que vous voulez? Cette équipe-là a dépensé plus que tout le monde au monde. Quand vous êtes déjà à plus d'un milliard de recrutement et que vous ne gagnez jamais, depuis 2011, il faut se dire quand même qu'ils se sont fait sortir en quart de finale. C'est-à-dire que depuis que QSI est arrivé, 4 fois en quart de finale. Maintenant, ils se vont sortir tout le temps en 8e de finale. C'est-à-dire que l'année prochaine, ils vont sortir, en 16e de finale, et après ce sera en 32e de finale, puis ils ne seront même plus jamais qualifiés. Donc plus on met de l'argent au PSG, plus ils régressent, comme il y a un proverbe africain qui dit que vous avez beau poser la grenouille sur une chaise en or, elle retombe toujours dans sa mare.
Elle est très très jolie celle-là, Rémi. Vraiment très jolie. Alejandro, à vous de rebondir du siège en or.
Bah oui,
bon courage.
En évitant la mare.
Mais moi je pense que un peu, je suis d'accord avec Patrick, c'est aujourd'hui il y a un modèle des développements du club qui a échoué, qui consistait à mettre quelques stars flamboyantes au devant de la scène et à avoir une équipe assez déséquilibrée derrière. Je pense qu'il faut tout repenser. Si ces stars doivent rester, il va falloir que les dirigeants leur expliquent quelle est leur stratégie pour faire grandir vraiment cette équipe, pour la faire repartir du bon pied. Il faut voir aussi si les fair play financiers va permettre au PSG de se vraiment reconstruire sans laisser partir au moins une de ses têtes d'affiche.
On y reviendra évidemment aux conséquences de ces éliminations. Continuons sur le chemin de Radio Foot. Dernière session avant les cartons. Alors, les listes des équipes nationales fleurissent un peu partout dans le monde puisque des journées internationales apparaissent et le Messi est de retour. Et oui, Alejandro Valente, Lionel Messi a décidé de revenir, n'est-ce pas? Le revoilà sur la liste des 23 Argentins convoqués par leur sélectionneur, qui s'appelle Lionel aussi, c'est peut-être une coïncidence.
Bah, on a deux Lionel, c'est pas un prénom si fréquent.
Scaloni.
Oui, surtout en Argentine. Deux matchs en prévision, Venezuela et Maroc. Lionel Messi reviendra, est-ce qu'il jouera? Alors là, Lionel Scaloni laisse planer un petit doute.
Léo Messi est convoqué, il sera avec nous et nous verrons plus tard s'il joue un ou deux matchs ou autre chose. Il est clair qu'il joue actuellement plein de matchs, que tous les joueurs sont tellement fatigués à ce moment de la saison qu'ils aimeraient prendre plutôt quelques jours de repos. Mais lui, il veut venir avec nous et c'est un énorme pas en avant. Mais nous ne savons pas encore s'il va jouer un ou deux matchs, voire aucun.
Bon, alors aucun, il serait super déçu quand même, les supporters qui iront au stade, si on annonce l'Argentine et qu'il n'est pas là. En tout cas, la dernière fois qu'on a vu Lionel Messi sous le maillot de l'Argentine, nous on s'en souvient, ouais. Avec un peu de sourire, hein, Alejandro.
Il rigonne.
Oui, c'était un certain France-Argentine. Dites-nous si l'Argentine a besoin de ce génie, et surtout besoin pour se relancer. On pense évidemment à la Copa América, qui est une importante échéance pour cette équipe argentine, puisqu'elle se disputera au Brésil.
Bah forcément, et il en a besoin. En tout cas, c'est pas la même Argentine avec Messi ou sans Messi. Et déjà, dans les chaos qui règnent au sein de la Fédération argentine, avec ses sélectionneurs Lionel Scaloni qui est là un peu par défaut, parce que aucun des grands entraîneurs argentins qui pouvaient éventuellement s'épancher sur l'équipe nationale n'a voulu le faire. Donc c'est déjà un grand mérite d'avoir réussi à convaincre Lionel Messi, après plusieurs mois de silence, de revenir dans le groupe.
Ça faisait peut-être pas trop de doutes en même temps, Alejandro.
Oui et non, parce que bon, l'Argentine n'a pas énormément, c'est contrairement à l'Europe où très vite on arrive à l'Euro, etc. Bon, là, il y a la Copa América qui va arriver, mais c'est une Copa América qui va se jouer au Brésil avec une équipe d'Argentine.
Où il n'y a pas d'éliminatoire,
qui est loin d'être reconstruite. Et après, il y aura un énorme trou jusqu'à la Coupe du Monde en 2022. Donc, quel est vraiment l'intérêt de Lionel Messi de revenir? Je pense qu'il ne calcule pas, qu'il a envie de reporter à nouveau le maillot argentin, essayer de faire ce qu'il pourra pour aider l'équipe.
Je pense que je suis d'accord avec Alejandro. C'est un joueur qui ne s'arrête jamais. On voit jamais, par exemple, Lionel Messi rater un match parce que il faut faire tourner l'effectif. Il joue le plus possible. Il a toujours été comme
avec
ça. Il en
Barça.
A besoin avec le Barça et quand il est en sélection avec la sélection.
Pas il tout était le temps. Parti et une là, fois déjà.
Oui, mais c'est un peu des faux départs. C'est-à-dire qu'il veut voir si on le prie de revenir,
si
je pense. Il y a une partie de... C'est comme les comebacks des rockers, ça. Bon, j'arrête, c'est ma dernière journée, deux ans après,
je commence. C'est la Ligue des Champions cette année, en premier lieu.
Ouais, et je pense qu'il veut gagner un trophée quand même avec ce maillot albicéleste. Et il attend la Copa América.
Un trophée significatif sur le plan national.
L'entraîneur a tout dit dans sa déclaration. Il dit que peut-être qu'il ne jouera pas les deux matchs. C'est-à-dire, aujourd'hui, le plus important pour Léo Messi, c'est la Ligue des Champions avec le Barcelone. Ils ont un match très important dans quelques jours face à Lyon. S'ils passent, ils seront en quart de finale. Tout dépendra du tirage. Comment il faut le ménager? Il a maintenant 30 ans, voire plus. Il va pas aussi aller essayer de se cramer et briser le reste de sa saison. Quand on arrive au mois de mars, c'est très compliqué. Déjà que les corps sont...
Oui, mais il revient.
Mais il va revenir, mais est-ce qu'il va jouer?
Oui, ça c'est. Mais en tout cas, c'est le symbole déjà, effectivement.
Mais oui, parce qu'il aime cette patrie et puis il veut gagner, comme l'a dit, il veut gagner un trophée majeur avec l'Argentine avant d'aller à la retraite.
Rémi,
c'est très mauvaise communication. Très très mauvaise
de la part de qui?
De la part de Scolari.
Scaloni.
C'est même une catastrophique. C'est même catastrophique comme communication. Vous ne pouvez pas dire que Messi était tranquille dans son coin. Vous dites il va venir, peut-être qu'il va jouer, peut-être qu'il ne va pas jouer. Soit dit
qui
en
va
passant,
décider.
Soit dit en passant, il a renouvelé l'effectif à 80%. Donc Messi se retrouvera en trop avec 20% des personnes là. Première des choses, il faut déjà essayer de voir comment est-ce qu'il va l'intégrer, comment est créer les automatismes. Vous ne le faites pas. Vous dites qu'il va venir pour rester au banc.
Enfin,
mais mieux, vous ne le convoquez pas.
Rémi, en fait, vous mettez Messi dans un effectif, ça ne sera pas le problème.
Il est en train de vouloir éteindre l'incendie par rapport au Maroc. Parce que il a été clairement mis en avant les conditions de Messi pour qu'il joue au Maroc.
C'est une fake news, Rémi.
Ah oui, que ce soit
qui ne sont pas officiels, Rémi.
Ah bon, mais c'est ça qu'ils disent. Mais pour l'instant, rien n'a été confirmé. Mais une chose est sûre, c'est que si le Maroc aujourd'hui, si Messi aujourd'hui ne joue pas avec le Maroc, ça va donc se confirmer parce qu'il va jouer contre le Venezuela. Ça, c'est clair. Qu'on ne nous embrouille pas, Messi va jouer contre le Venezuela.
Après, dans l'intérêt de la sélection, il est plus intéressant de le faire jouer contre une équipe sud-américaine à l'approche de la Copa América. Donc, c'est pas un complot anti-marocain.
On verra ça dans les semaines qui viennent. Session carton.
Carton jaune.
Il y a un carton là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge
dans la confusion.
Carton vert.
Rien à dire.
Et aujourd'hui, on commence par le carton de Radio Foot. La semaine dernière, on n'a pas eu le temps de le donner. Alors aujourd'hui, on le donne à
Pontadic.
C'est bien. Et quel début de match il fait, lui.
Quel début de match il fait, lui.
Mais ils sont en train de les faire tourner.
Quel début de match il fait. Mais il est fou. Non. C'est pas possible.
Désolé hein, Rémi, mais c'est un carton vert à Dusan Tadic, le joueur serbe, l'international de l'Ajax, pour sa magnifique prestation face au Real Madrid, parce que aussi ça lui a valu la note de 10 dans le journal L'Équipe. C'est très rare, en 30 ans, c'est le 9e footballeur à décrocher cette note parfaite. Votre carton, Euro.
Vert pour vous déjà, bonne fête.
Merci.
Et pour Ismaël Sarr pour son but d'hier.
Ouais. Patrick, c'est bien, moi c'est clair, précis, et on voit tout de suite l'image. Patrick, Juillard.
J'ai deux cartons verts rapides et un hommage. Carton vert d'abord pour Solskjaer, parce que j'ai adoré sa phrase, les montagnes sont faites pour être gravies, et il l'a fait contre le PSG. Mon deuxième carton vert, j'ai oublié, c'est pour Moussa Marega, qui est le meilleur buteur africain et qui réalise des prestations fantastiques avec
le
Porto.
Malien.
Et je voulais rendre hommage, je profite d'être à ce micro pour rendre hommage à notre confrère Olivier Escarmena, qui nous a quitté la semaine dernière, qui était un spécialiste de la Liga du foot espagnol que j'avais connu à Aujourd'hui Sport. Voilà, je voulais saluer sa mémoire. Nous l'avons enterré ce matin.
Rémi.
Alors. Mon confrère Ulrich Armel, qui lui aussi, il donne un carton rouge à Neymar et particulièrement au PSG.
Pourquoi lui aussi, il n'y a pas eu de carton rouge encore?
Oui, donc voilà. Donc, il donne particulièrement à tous les joueurs du PSG qui ont manqué ce qu'on peut appeler la gnaque, cet esprit de vouloir vaincre et tout. Donc, finalement, il dit que mais ils n'ont qu'à venir apprendre à être forts comme les lions indomptables en Boumasson au Cameroun et tout. Comme ça, ils sauront comment on fait pour croquer un adversaire, comme le dit un proverbe africain. Pour croquer les pieds de maïs dur, il faut avoir des vraies dents.
Alejandro.
Allez, un rapide carton vert à Arsène Wenger qu'on attendait de retour sur un banc et qui finalement va se retrouver aux côtés de Gianni Infantino pour l'assister dans l'évolution des règles du jeu de la FIFA.
Et c'est la fin de ce Radio Foot International préparé tout au long de la semaine avec David Finzel et avec fidèlement à la réalisation Laurent Salerno. On vous dit tous à la semaine prochaine. Merci.